Dans les épisodes précédents, David Bowie est mort, Alan Rickman est mort, Michel Delpech est mort, les papillons de la jeunesse s'éloignent, bientôt les mouches pour les remplacer. Nous sommes le 25 janvier 2016 et cette fois, c'est la bonne. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro du podcast, cette fois c'est la bonne, le podcast dédié aux révisions des concours de journalisme. Je suis Benjamin, alias concombre masqué ou arrobase la débauche sur Twitter. J'ai plein de pseudos incroyables qui me vaudront bientôt les foudres de pas mal de copyright. En tout cas, je n'ai pas eu de plainte pour le moment, donc je suppose que ça va. Et vous êtes ici sur le deuxième numéro donc de ce podcast dédié aux concours de journalisme. Cette fois c'est la bonne est un site dédié aux concours de journalisme où je fais le tour de manière transmédia au possible sur le sujet, il y a pas mal de choses à dire, et ce podcast hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, bimensuel plutôt finalement, c'est peut-être la meilleure appellation, va vous aider à réviser l'actu, en l'occurrence du 18 au 25 janvier 2016. Il s'est passé pas mal de choses, donc on va attaquer tout de suite. Il y a pas mal de sujets à aborder, et dans l'agenda, pas grand-chose, si ce n'est les portes ouvertes le 30 à l'ESJ, l'école de journalisme de Lille. Je mets l'emphase sur cette école puisque c'est sincèrement, a priori, la meilleure de journalisme de France. C'est un peu le Columbia français. Je vous conseille très vivement d'aller voir ce qu'il se passe là-bas, puisque basiquement tout ce que je fais, toutes les fiches que je rédige et tous les podcasts que je fais sont un peu construites autour du modèle de ce concours. Je développerai plus tard par texte, mais s'il y a une école où vous devriez aller, ce serait sans doute celle-là. Allez, tout de suite l'international. On va aller en Iran. En Iran, le ministre du pétrole a augmenté la production de 18%, soit un demi-million de barils par jour en plus. Alors sans aucun rapport, mais oui, les États-Unis et l'Union européenne lèvent les sanctions touchant Téhéran sur les exports de pétrole parce que dans la vie, les choses sont quand même bien faites. Non, vraiment, sans aucune ironie, ces sanctions étaient là depuis 10 ans et sont levées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette agence est en négoce depuis deux bonnes années sur le nucléaire iranien. On parle de fin 2013, début 2014. Donc l'Iran a rempli sa part du contrat. Il a rendu inopérant des centrifugeuses nucléaires, par exemple. C'est un très très bon plan diplomatique. Par contre, ça ne donne pas vraiment plus de poids au président Rouhani. Les législatives sont le 26 février. La majorité de ses listes sont encore invalidées. Les choses ne se présentent pas encore très bien pour lui. On va aller en Allemagne et on va parler de migration, l'un des grands flux tendus de ce début d'année et des années précédentes. Alors, le climat est de plus en plus prompt à la fermeture des frontières en Europe et Angela Merkel en est le centre. D'abord à cause des répercussions de la nuit du réveillon à Cologne où des centaines de femmes ont été agressées sexuellement par des migrants et surtout parce que ça devient aussi un enjeu électoral. Dans deux mois, en Allemagne, il y a des régionales. Il y a de grosses pressions de l'Union chrétienne démocrate qui n'est pas pour cette fermeture et la politique de Merkel donne du grain à moudre à l'extrême droite locale, l'alternative pour l'Allemagne. Vous voyez le paradigme, ça se répercute sur d'autres pays européens qui ont exactement le même mode de pensée, et ça se répercute sur tout l'espace Schengen, donc grosso modo le tiers des pays participants ont suspendu leur application. Maintenant il y a des contrôles en France, en Allemagne, en Autriche, en Slovénie, au Danemark, en Suède et en Norvège. Pas bien plus loin, l'Autriche a instauré un plafond de demandeurs d'asile, 37 500 personnes en 2016. Pour comparer, il y a 8,5 millions d'Autrichiens. Sur le sujet, le pays était l'un des meilleurs élèves en Europe. Et toujours dans le même sujet, au Royaume-Uni, le flux de migrants s'invite dans un débat public largement dominé par le Brexit, la sortie de l'Europe donc, puisqu'un tribunal londonien vient de permettre des migrants dans la jungle de Calais à pouvoir rentrer chez eux à Londres. D'ailleurs, je ne devrais pas utiliser le terme de jungle, l'idiome est complètement affreux. Bref, ils pourront rejoindre leur famille là-bas. On va rester en Angleterre. David Cameron veut imposer des tests d'anglais aux femmes musulmanes immigrées. Alors évidemment, pas exclusivement aux femmes, mais le ratio entre les sexes est très 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 fort après 2 ans et demi de séjour. Par contre, il n'y a pas d'interdiction de la burqa. Cameron refuse le modèle français sur la question. Alors pourquoi ça vient dans le débat public? Il y a un vrai débat local sur le risque d'attentat. 400 citoyens british combattent pour Daesh en Syrie actuellement, et c'est quand même assez gênant puisque ça fait un lien que personne n'a jamais trop fait explicitement entre le fait de ne pas avoir la courtoisie de parler anglais, les barbares quoi, comme pourrait l'insinuer quelqu'un comme François Fillon, et l'extrémisme. Donc Cameron a un petit peu du mal à clarifier son opinion et ses pensées sur le sujet. D'ailleurs, le Parlement anglais a été le lieu d'un débat où Donald Trump a été qualifié d'imbécile, ça fait toujours plaisir. En Pologne, les médias polonais se font purger par le parti conservateur en place. Les médias publics réagissent, contraints et forcés à une nouvelle loi sur les médias qui provoque l'éjection immédiate de tous les directeurs d'antenne immédiatement remplacés par le gouvernement. Le ministre du Trésor d'ailleurs. Déclaration du porte-parole du groupe parlementaire du parti. Nous espérons que cette narration médiatique avec laquelle nous sommes en désaccord cessera enfin d'exister. Ok, donc vraie atmosphère de crainte. Excellent bail. Au Burkina, vous l'avez tous vu, il y a eu une attaque attentat d'un restaurant puis d'un hôtel de Ouagadougou. 29 morts, c'est évidemment un lieu très visé, c'est un rassemblement d'expatriés, bref. Aux États-Unis, on a remarqué un énorme souci de santé à Flint dans le Michigan, qui dans ma tête se rapporte à deux choses très précises. Michael Moore, c'est sa ville natale, et la crise automobile. Alors maintenant, à Flint, l'euro est littéralement plombé. Plus de 40 personnes sont en surdose et 10 sont morts de légionellose. C'est en cours de réparation, mais 1,5 milliard de dégâts tout de même dans le panier. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, avant, Flint achetait son eau à Détroit, d'ailleurs l'une des villes les plus pauvres et les plus craignos des États-Unis. Mais le gouverneur républicain local a décidé d'utiliser cette fois l'eau de la rivière sans la traiter avant. C'est super astucieux. Par contre, pour l'anecdote, Détroit n'est pas la ville la plus pauvre, enfin la ville la plus, on va dire, défavorisée des États-Unis, c'est cette super ville qu'on appelle The Mistake on the Lake, Cleveland. En Inde, je cite BriefMe, 13 personnes ont été arrêtées et emprisonnées mi-janvier après avoir été accusées d'enfreindre la loi anti-conversion en vigueur depuis 2006 dans l'état du Madhya Pradesh. Alors quel est le problème? En fait, elles ont été suspectées d'avoir opté pour le christianisme dans un pays où 7 états sur 29 disposent d'une législation punissant les conversion. Une loi étendue à l'échelon fédéral est à l'étude depuis l'an passé. Alors, quelle est la religion majoritaire de l'Inde? Vous le savez sûrement, c'est quand même l'hindouisme, pour 80% de la population. Et là, au pouvoir, le parti nationaliste prône l'idéologie de l'Hindutva, selon laquelle le pays est dans son essence hindou. Bref, c'est une espèce de religion canonique, et une ONG chrétienne locale aurait rapporté que plusieurs convertis chrétiens se sont vus proposer l'équivalent de 2 700 €, soit je ne sais combien de mois de salaire indien, par des organisations nationalistes indiennes pour revenir à l'hindouisme. On va à Taïwan. À Taïwan, Tsai Ing-wen, INW plus loin WEN, devient la première présidente. Elle est issue du parti d'opposition. Oui, la République de Chine, le RDC, est le nom officiel de Taïwan. Elle a été élue avec une grosse marge, 56,12% des suffrages, aux dépens du parti principal. Attention, je vous laisse le remémorer, si vous l'avez peut-être, c'est le Kuomintang. La Chine connaît une plus faible croissance depuis 25 ans, seulement, entre guillemets, plus 6,9% du PIB. Mais un petit peu de contexte. Il y a 23 millions d'habitants à Taïwan et autant de gens qui considèrent la Chine comme le voisin un peu pourri. Il y a un vrai derby plus ou moins unilatéral entre les deux. Le président sortant a signé 22 accords de libre-échange qui font redouter une annexion avec la Chine communiste. Entre tradition et modernité, quoi, littéralement. En Russie, la commission d'enquête publique britannique a rendu une conclusion pour le moins intéressante sur l'empoisonnement à Londres en 2006 d'Alexandre Litvinenko, ex-espion du KGB, qui a rejoint la trajectoire d'Anna Politkovskaya. C'est-à-dire qu'il a bu un thé empoisonné au polonium. Anna Politkovskaya, c'était plus du café, mais bon, bref. Les conclusions seraient que cet empoisonnement aurait été, 15 guillemets pour éviter d'avoir du polonium dans mon thé glacé pêche, s'il vous plaît, probablement approuvé par Vladimir Poutine. Vous en faites ce que vous voulez, bref. En Haïti, une présidentielle à la régularité très très contestée. Le premier tour a placé Martelly, le candidat du président actuel, en tête, mais on parle de mascarade électorale. Des bureaux se sont fait incendier. Le deuxième tour est actuellement repoussé à une date indéfinie. En Tunisie, le premier ministre Habib Essid a dû se sauver du forum de Davos-Dardar pour retourner au pays où se déroule une crise sociale majeure. Les gens descendent dans la rue après la mort d'un chômeur dans une autre manifestation à Kasserine, avec un K. Un jeune de 28 ans, Ridia Yayaoui, est mort accidentellement électrocuté en montant sur un pylône après avoir perdu un potentiel emploi dans un secteur où le taux de chômage atteint les 30%. Il y a désormais un couvre-feu nocturne sur place. Et pour faire un petit peu des médias, le site américain d'investigation ProPublica a lancé une version sur le Deep Web. L'histoire est marrante, entre guillemets, puisqu'ils ont publié une enquête sur la censure récurrente du pouvoir chinois sur le web. Du coup, la question, c'est comment les lecteurs pouvaient-ils lire ces articles? Bref, le Deep Web. Et enfin, le New York Times a distribué à 1 million d'abonnés un masque en carton qui permet de mettre leur smartphone dedans pour visualiser leur vraiment chouette reportage en 3D. Un contenu hébergé par des marques dont Mini et Lufthansa. Enfin, pour la petite information frappadingue-oiseuf de la semaine, sachez que l'AFP va ouvrir des bureaux à Pyongyang. Paperback writer. Allez, maintenant la France. Alors c'est quoi La France pour la vie? Le titre La France pour la vie, c'est un livre confession sorti par Nicolas Sarkozy. Alors ça ne servira jamais pour les concours de journalisme, mais actuellement 80% des Français ne veulent pas le voir se présenter en 2017 et ce chiffre tombera à 55% chez les sympathisants Les Républicains. Alors, tous les candidats potentiels à la primaire commencent à sortir leurs livres, ils le font tous en même temps parce qu'ils ont l'esprit pratique, et dans ce livre, qui fait un peu mea culpa, il dit regretter le bouclier fiscal et n'entend pas remettre en cause le mariage pour tous. Il regrette surtout la forme de son discours et la forme de ses actions, notamment l'épisode Castor Pauvre Con et l'épisode Paquebot Polloré. C'est un bouquin dans lequel il parle des 35 heures, dans le même sens qu'Emmanuel Macron qui parle de la fin logique des 35 heures pour la réforme du travail. C'est évidemment une loi Aubry, et je doute que la majorité ait besoin d'un conflit interne supplémentaire. Bref, tout le monde sort un livre confession, vous aurez peut-être vu la séquence de Copé chez Fogiel, j'avais envie de reprendre de l'Istaloprab alors qu'on commence à peine à m'en sevrer. Alain Juppé, de son côté, a publié 2 livres pour exprimer son programme. Le deuxième, pour un état fort, l'a repositionné un peu plus à droite, d'autres sont annoncés d'ici la fin de l'année, dont celui de Bruno Le Maire. François Fillon, auteur de « Faire », s'est attribué un regain de popularité en mettant en avant ses chiffres de vente. Par contre, c'est pas en tweetant sur les barbares qui n'ont pas la courtoisie de parler français qui va améliorer sa cote. Bruno Le Maire, j'en ai déjà parlé, et chacune de ses parutions est l'occasion de se rendre visible dans les médias, évidemment, puisque tout est publié dans la presse, tout est commenté à la radio et à la télévision. Et ce dimanche où j'enregistre, Nicolas Sarkozy était l'invité de 7 à 8. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, a déclaré que l'état d'urgence allait probablement se prolonger au-delà du 26 février. La Ligue des droits de l'homme a vivement indiqué son inquiétude, l'ONU aussi dénonçant des, je cite, « restrictions excessives et disproportionnées sur les libertés fondamentales ». En plus du débat sur la double nationalité, s'est ajouté dès lundi un débat sur la laïcité, un débat ultra récurrent réactivé par Manuel Valls, Puisque lundi 18, pendant une conférence du CRIF, le Conseil représentatif des Juifs de France, il s'est pris à partie avec Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire sur la laïcité, un organisme qui assiste le Premier ministre sur la question. Il l'a accusé de dénaturer la laïcité, dont plusieurs notions commencent à rentrer en conflit. Lundi matin aussi, le président Hollande a annoncé un plan d'urgence contre le chômage. Alors ça fait 3 ans qu'on parle de la fameuse courbe du chômage qu'il doit renverser pour pouvoir se représenter, selon lui. Il a annoncé des plans de bataille en amont de l'emploi, en 3 points. Plus de formation pour les demandeurs d'emploi, plus d'un demi-million de cursus. C'est le même chiffre en plus pour des contrats d'apprentissage en 2017, il y en a actuellement 400 000. Et enfin, une aide à l'embauche pour les PME, bref, tout ça coûte 2 milliards supplémentaires. Les experts craignent de ne pas avoir le temps de trouver le personnel de formation nécessaire. On accuse François Hollande de manipulation statistique du chômage. Il faut se pencher sur les fameuses catégories de chômeurs. Celle qu'on entend tous les mois, c'est la catégorie A, sans aucune activité. Donc le but du jeu, c'est de les faire basculer vers une autre, la catégorie D qui regroupe les gens en formation. Donc effectivement, ça peut sembler un peu intéressé si on le prend de ce côté-là. Parlons un peu de Patrick Balkany, c'est toujours délicieux, on n'a plus de galettes à manger et j'en suis désolé. Patrick Balkany a été mis en examen pour son patrimoine, il aurait omis de déclarer quelques trucs entre 2011 et 2014, il aurait organisé son insolvabilité, bref, Patrick Balkany, j'aime la galette, savez-vous comment? On parlait de Sarkozy, on parle d'Alain Garder, évidemment un proche qui vient d'être mis en examen, l'histoire va se poursuivre forcément dans les prochaines semaines, j'en parlerai plus tard. Par contre, dans la rubrique Carnet Noir, et là je mets une énorme emphase, on parle de la mort de Leïla Alaoui. Oui, une photographe franco-marocaine grièvement blessée dans l'attentat de Ouagadougou, qui est devenue la 30e victime de l'attentat. Il est extrêmement important de retenir son prénom et sa tête, d'une part en respect pour cette femme, mais aussi puisque, je le répète, c'est très cynique, mais tout ce qui a un rapport méta aux médias est à retenir 2 fois plus fort. Donc n'hésitez pas à garder ça dans un coin de tête. Toujours dans le carnet noir, la mort d'Edmond Charleroux, prix Goncourt 1966 pour oublier Palerme. Jérôme Kerviel a demandé la révision de son procès. C'est assez amusant d'avoir un rappel de cette affaire après la sortie de The Big Short au cinéma. Et comme le point flou de l'affaire est de savoir si l'ex-trader manipulait ses milliards en connaissance de cause de la Société Générale ou non est le point nodal du truc, eh bien, une ancienne magistrate aurait été enregistrée à son insu en disant que oui. Rapporté par Mediapart et 20 minutes, on parle de 4,9 milliards d'euros sur une spéculation un peu floue de 50 milliards. Je savonne tel Fabrice Drouel. Donc je rappelle le statut pénal actuel de Jérôme Kerviel. Il a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, et à rembourser la Société Générale. Par contre, en cassation, il a pris le pénal, mais pas le civil. Affaire à suivre donc, et évidemment, il est très très intéressant de noter que Pamela Anderson est allée à l'Assemblée Nationale pour défendre les oies gavées. Je suis pas d'accord, j'adore le foie gras poêlé, j'aime pas les mariages, mais j'aime bien le foie gras poêlé. Et enfin, le 4e et dernier patient ayant bénéficié d'une greffe de cœur artificielle Karma est décédé. Tout de suite, le reste. Alors c'est là que j'ai été le plus lacunaire cette semaine, donc n'hésitez pas à compléter vos fiches, à revenir un peu sur le monde de cette semaine. Tout d'abord, en écho, les chiffres 2015 de Renault sont tombés. On parle de 2,8 millions de véhicules vendus en 2015, soit plus 3,3%. Ça va, les ingénieurs du groupe étaient appelés à s'expliquer le lundi 18 devant la commission mise en place par Ségolène Royal sur les dépassements constatés des seuils de pollution de ces véhicules. Une affaire qui peut empiéter sur l'objectif des 3 millions attendu depuis 2013 et toujours pas atteint. Tout le groupe PSA a pu vendre 2,97 millions, soit une augmentation de 1,2%. La commission surnommée de Ségolène Royal a été créée après le scandale Volkswagen. Et oui, les tests aléatoires sur les émissions, c'est leur mission. J'en parlais un peu en amont, mercredi, les indices boursiers européens et américains se sont fait dessus puisque les marchés mondiaux ont enregistré une baisse de 10% en un peu moins d'un mois. Le souci vient surtout de la Chine et du manque de fiabilité de ces chiffres. Cette semaine a marqué un scoop de BuzzFeed et de la BBC qui a révélé dans le monde du sport que 70 joueurs de tennis ultra cotés seraient impliqués dans des paris truqués. Djokovic, par exemple, aurait été contacté sans avoir donné de suite. En science, 2 chercheurs de l'université Caltech auraient potentiellement mis la main sur une 9e planète dans le système solaire en stipulant qu'un corps de 10 fois la Terre est encore à découvrir. En culture, je ne peux pas m'empêcher de vous parler du manga One Punch Man édité chez Kana qui vient de sortir et qui fait un carton, c'était prévu. Donc n'hésitez pas à parcourir le premier tome ou à retenir que son héros s'appelle Saitama, qu'il est chauve, qu'il est super puissant et qu'il s'emmerde dans la vie de tous les jours. On ne sait jamais. Cette semaine a vu la mort d'Ettore Scola, un cinéaste italien d'affreux sale et méchant, ou de Nous nous sommes tant aimé. Pardon, voilà, ça, c'est cette prononciation un peu hasardeuse précise à quel point je ne connaissais pas ce monsieur. Par contre, je connaissais un peu plus Glenn Frey, le guitariste des Eagles. Mais si sincèrement, vous pouvez me citer deux ou trois autres pistes qui ne sont pas Hotel California, c'est que vous connaissez mieux le groupe que moi, tout simplement. Cette semaine a vu l'ouverture d'une nouvelle formule de La Croix. Alors, je ne sais pas si le site de La Croix a une nouvelle bannière. Oh, 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 là, là, c'est drôle. Bref, il passe à l'Orange. Et si vous voulez stager chez eux, il faudra sortir d'une école de journalisme reconnue parce que la vie n'est pas toujours juste. Une petite pépite tech. Pendant deux semaines, en début 2015, le FBI a administré un site de pornographie infantile permettant à des milliers de prédateurs sexuels de télécharger des images pédophiles. Alors, les enquêteurs américains ont préalablement servi les serveurs du site, accessibles grâce à Tor. Et grâce à un logiciel, ils ont obtenu les adresses IP de 1300 ordinateurs qui y téléchargeaient des images. Ils ont pour l'instant inculpé 137 personnes jusqu'ici. Alors évidemment, la question que ça pose, c'est, il a bien fallu que le FBI se les procure, ces images, et va savoir ce qu'ils font avec. Donc, ils sont aussi en délit. Bref. Allez, on passe maintenant à la question bonus. La question bonus, c'est la dernière rubrique du podcast où on évoque les petits trucs à retenir, les petits chiffres, les machins susceptibles de tomber qu'on va prendre de manière indépendante à toutes ces histoires au long cours. Alors déjà, des chiffres super intéressants, fun fact nul, la population italienne baisse. Le taux de natalité est de 1,37, c'est un record. Le taux du livret A est maintenu à 0,75%, le PEL passe de 2% à 1,5%, et on a vu l'apparition d'une nouvelle aide, la prime d'activité. Vous êtes éligible sur la CAF si vous touchez moins de 1,3 SMIC. N'hésitez pas à consulter ça pour votre culture et éventuellement pour votre portefeuille. En milieu de semaine, sont tombés une tripotée de chiffres démographiques faciles à retenir dans les grosses lignes. En France, on est 66,6 millions de Français. Pour la première fois, l'espérance de vie recule, c'est du jamais vu depuis 1969. Pourquoi ? Parce que les grosses épidémies de grippe. 78,9 ans en moyenne pour les hommes, 85 en moyenne pour les femmes. On est le cinquième pays après le Japon, l'Espagne, la Suisse et l'Italie. Et tout de suite, la question logique, c'est quel est le pire ? Eh bien, le pire, c'est le Lesotho, avec 42 ans d'espérance de vie. 2015 a compté 8000 mariages homo. L'âge moyen à l'accouchement est de 30,4 ans. Alors, que faut-il retenir de cette année ? Le chef d'état-major des armées, je vous fais un petit rappel, c'est Pierre de Villiers. C'est quoi une PME ? C'est quoi une PME ? C'est une question de chiffres, c'est une entreprise avec moins de 250 salariés. On va retenir une citation de Manuel Valls, expliquer, c'est déjà un peu excusé. Évidemment en parlant du djihadisme. Mais beaucoup de twittos se sont beaucoup amusés à rapporter cette citation à lui-même. J'aimerais que vous reteniez le nouveau président de la Catalogne, Carl Puigdemont, P-U-I-G-D-E-M-O-N-T. Et la nouvelle présidente de Taïwan, j'ai dit tout à l'heure ? Vous n'en souvenez plus ? C'est Tsai Ing-wen, I-N-W, plus loin, W-E-N. Enfin, j'en ai pas parlé en culture, la mort de Michel Tournier, écrivain. Il avait écrit sa propre nécro dans « Des clés et des serrures ». Il écrivait « Clef », C-L-E-F, damn, je suis pas d'accord. Bref, il a gagné le prix Goncourt 1970 avec « Le roi des aulnes ». Voilà pour cette fois, voilà pour cette quinzaine. On se retrouve soit la semaine suivante, soit dans deux semaines pour un numéro toujours plus fat, puisque je vais avoir de plus en plus de temps pour chroniquer l'actualité. Donc n'hésitez pas à vous servir de ce podcast pour compléter vos connaissances. Hein, c'est l'objectif, c'est pas vraiment de vous faire des fiches, c'est de vous rappeler peut-être ce que vous n'avez pas vu ou ce que vous n'avez pas repéré. C'est objectivement pour vous aider, pas seulement pour vous mâcher le boulot. Et je rappelle que cette rubrique, ce podcast, ont été financés un peu grâce à vous, puisque grâce au Patreon Ulule, enfin grâce au Ulule, oh, je vais pas y arriver, j'ai réussi à pouvoir me financer du matériel qui est toujours plus utile. Là, par exemple, je viens de recevoir une soundboard qui va me permettre de faire le montage beaucoup plus rapidement. Et je dois faire coucou, puisque ça fait partie des remarques, au seul patron éligible qui a réclamé ce palier, c'est Damien Van Achter. Donc Damien, je te salue et je salue toute la Belgique. Que pourrais-je dire à ton propos cette semaine ? Eh bien, je ne sais pas, j'ai très envie de gaufres, voilà. C'est ce que m'évoque ton pays cette semaine, et c'est sur cette conclusion absolument honteuse, et je l'espère qu'il sera de plus en plus lyrique au fil des numéros. Je pourrais parler, je pourrais faire des haïkus, je pourrais faire ta météo, ce genre de choses. Mais bref, cette personne sera indirectement présente dans chaque numéro. Je vous souhaite un très bon courage. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur le podcast sur iTunes ou tout simplement en parler à vos amis si vous révisez les concours. De vous rediriger sur le site Cette fois c'est la bonne pour beaucoup beaucoup d'autres formes d'actualité et de médias sur l'actualité des concours et sur leurs méthodes. Et je vous dis ciao, salut, à plus.
Philippe, je sais où tu te caches.
Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film. Je me demande bien comment ils peuvent faire ça.
Eh dis donc, Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y'a plus de péloche. Y'a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions et des super invités, Giboite.
Oh là là, Emmaël, où est-ce qu'on peut entendre ça?
Une fois par mois sur Radio Kawa, Giboite.
Allez Marcel, au studio.
Y'a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel.
Présenté par Maël et Giboite.
Une fois par mois
sur Radio Kawa.